Vous écoutez On lit pour vous.
Des robots en agriculture. Un texte de Benjamin Richer paru dans le magazine L'Actualité de mai 2024. Les robots équipés d'intelligence artificielle promettent de révolutionner l'agriculture. Le Québec est en train de les adopter, lentement mais sûrement. En bordure d'un champ de maïs à Saint-Hyacinthe, l'ingénieur Samuel Pittet n'a qu'à enfoncer une touche d'un clavier d'ordinateur pour réveiller le robot Hérion, qui commence aussitôt à sarcler. La machine s'oriente à l'aide de la caméra installée sur son capot et grâce à des images prises par un drone, qui sont décodées par son intelligence artificielle. Conçu à Trois-Rivières par Elmec, fabricant de bornes de recharge résidentielle pour véhicules électriques, le robot tracteur est alimenté par une batterie récupérée d'une Tesla accidentée. Il a passé l'été 2023 en rodage à Saint-Hyacinthe, à la ferme de recherche de Solio Agriculture, anciennement la Coop Fédérée, la plus grande coopérative agricole au Canada. Elmec a fabriqué 6 robots Hérion que l'entreprise espérait offrir en location à l'été 2024, avant que l'usine passe au feu en novembre. Mais une troisième génération de robots plus performants va voir le jour, assure Samuel Pittet. Ce qui anime ce dernier, c'est la possibilité de déployer sur de vastes superficies un ensemble de ces robots, tous interconnectés avec leurs outils pour sarcler, arroser, récolter. Ils pourront se recharger sur une remorque et travailler 24 heures sur 24, s'enthousiasme l'ingénieur qui a participé à la conception d'Hérion. Cette machine n'est qu'un exemple des technologies qui poussent dans les fermes. Drones, capteurs, intelligence artificielle. Les promesses sont appétissantes. Solution à la pénurie de main-d'œuvre, fin des journées de travail interminables, augmentation de la productivité et de la qualité, bénéfices pour l'environnement. Ce qui va révolutionner encore davantage la pratique agricole dans les années à venir, ce sont les tonnes de données que génèrent ces technologies, explique Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles, UPA, qui représente 42 000 agriculteurs et 134 000 producteurs forestiers. Des données sur les conditions du sol, la santé des plantes, les performances de récolte, qui permettent de faire de l'agriculture de précision. À partir de celles-ci, des entreprises élaborent des algorithmes prédictifs pour aider le producteur à prendre des décisions et un jour les prendre à sa place. Il faut désormais considérer la donnée comme la nouvelle matière première du secteur agricole, estime Annie Royer, professeure d'agroéconomie à l'Université Laval et co-autrice du rapport « Les enjeux du numérique dans le secteur agricole », publié en 2020 par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO. Ce n'est pas seulement l'application d'une nouvelle technologie, c'est une révolution de la façon de penser l'agriculture. Toute cette technologie représente l'avenir de l'agriculture, convient Charles-Félix Ross, mais elle tarde à se répandre, car elle coûte une fortune. Si on est capable d'avoir de la main-d'œuvre, ce n'est pas nécessairement pertinent. C'est toujours une question de coût. Dans l'industrie laitière, par exemple, une ferme québécoise sur 5 utilise des robots de traite, selon des données compilées par le ministère de l'Agriculture à partir du recensement de l'agriculture 2021, réalisé par Statistique Canada. En champ, les systèmes GPS sont pour le moment parmi les technologies les plus usitées, avec 31% des producteurs de grains utilisant un système de direction par guidage automatisé, grâce auquel un tracteur peut corriger sa trajectoire par lui-même, par exemple, contre 24% pour le secteur horticole. L'idée d'une ferme autonome a de quoi faire rêver les producteurs agricoles, préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre. D'ici 2029, près de 20 000 emplois pourraient être non pourvus dans le secteur au Québec, soit l'équivalent d'un poste sur quatre, selon le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture. Guillaume Cloutier, agronome et copropriétaire de la ferme Delfland à Napierville, en Montérégie, l'une des très grandes exploitations maraîchères en superficie au Québec, s'intéresse depuis des années à l'automatisation. Avec la hausse du salaire minimum et des coûts pour loger les travailleurs étrangers, c'est devenu une nécessité. Le maraîcher dispose de robots, de systèmes GPS, d'imagerie satellite, de sondes d'analyse de sol en temps réel et de centaines de capteurs dispersés aux quatre coins de sa terre, qui lui fournissent des informations autant sur le taux d'humidité que sur celui des spores dans l'air. Ces robots sont particulièrement efficaces pour lui éviter des casse-têtes de main-d'œuvre. Il estime que sans eux, il aurait dû recourir en 2023 à une quarantaine de travailleurs de plus que les 200 qu'il emploie chaque année, dont 120 viennent du Mexique et du Guatemala. Sa production de laitue est pour le moment la culture qui en bénéficie le plus. Un planteur robotisé lui permet d'accomplir en 3 heures ce qui en demandait autrefois 11 avec 12 travailleurs. La plantation, plusieurs fois par été, le démarrage des plants, le désherbage, l'arrosage, tout est désormais automatisé, hormis la récolte. Une laitue qui est molle, tu le sais en la palpant, mais pas le robot, explique-t-il. Le producteur s'est procuré ses premiers robots désherbeurs il y a une douzaine d'années. Sa plus récente acquisition, le KULT, iSelect de KULT Kress, d'ingénierie allemande, a été effectué il y a 2 ans, au coût de 150 000 $. Mais Guillaume Cloutier est toujours partant pour tester des prototypes prêtés par des fabricants. Comme la chèvre de Nexus Robotique, une entreprise de Saint-Bruno de Montarville. Vous écoutez « Des robots en agriculture », un texte de Benjamin Richer paru dans le magazine L'Actualité de mai 2024. On dirait une surfaceuse grise égarée entre les rangs d'oignons en ce début de juin. Sous l'engin, 3 bras arrachent les mauvaises herbes qu'ils différencient des pousses d'oignons encore jeunes grâce à des caméras et à leur intelligence artificielle qui a été entraînée à les reconnaître. Contrairement au KULT iSelect qui s'accroche à un tracteur, la chèvre est autonome et peut brouter jour et nuit. Des avantages que possède également le laser weeder de l'entreprise américaine Carbon Robotics, qui faisait une démonstration de son travail dans l'un des champs de Delfland lors du passage de l'actualité. Au lieu d'arracher les mauvaises herbes, il les pulvérise au laser. Son prix, en dollars américains, 1,4 million, ou 240 000 pour le louer 4 mois par année. Cela n'en vaut pas la chandelle même pour ce gros producteur maraîcher qu'est Delfland. Le coût des équipements demeure l'un des principaux freins à leur adoption, observe Annie Royer. Un tracteur, c'est aussi très cher, mais on l'utilise pour plein de choses. On le rentabilise tous les jours, contrairement à des robots qui font des tâches plus précises, explique-t-elle. Et en matière de rentabilité à l'hectare, le Québec est désavantagé. En 2021, la superficie moyenne des exploitations de la province était de 107 hectares, alors que la moyenne canadienne affichait 327 hectares, selon le recensement de l'agriculture. On peut compter sur les doigts d'une main les grosses entreprises maraîchères comme la ferme Delfland. Dans une petite ferme familiale, ce ne sont pas les mêmes enjeux, précise Izmir Hernandez, conseillère au réseau d'expertise en innovation agricole, REIA, qui regroupe 5 associations horticoles, dont les producteurs maraîchers. Des producteurs se tournent donc vers la location ou achètent des machines à plusieurs. La conseillère affirme que le manque de validation bloque aussi les producteurs. Quel équipement choisir? Sera-t-il rentable? Sera-t-il dépassé dans 1 an? Est-ce qu'il répondra aux promesses du fabricant? Créé en 2022, le REIA collabore depuis avec des centres de recherche pour comparer les technologies et vérifier comment elles se comporteront sous le climat québécois. Izmir Hernandez espère que des tests commenceront dès 2024, si Québec octroie du financement. Pour l'instant, l'organisation accompagne des producteurs dans ce virage technologique, notamment en établissant des ponts avec des fabricants québécois et étrangers, comme ce fut le cas avec Carbon Robotics. À Saint-Isidore, en Montérégie, Dominique Dubuc, producteur de maïs et de soya, exploite des données depuis 2012 pour savoir quels produits utiliser, des engrais par exemple, et en quelle quantité, en fonction des rendements. Les données sont de plus en plus pointues, et il en collecte autant que possible dans l'espoir qu'un jour, des algorithmes lui indiqueront quoi faire au champ ou quelle variété planter. Assis à sa table à manger, il nous montre sur sa tablette les cartes de rendement produites par sa moissonneuse-batteuse, qui révèle la quantité de grains récoltés par seconde en fonction des coordonnées géographiques. Un algorithme corrige le poids du grain selon le taux d'humidité et calcule le nombre de kilos récoltés à l'hectare. Un autre met ceux-ci en relation avec les conditions météo, des images satellites qui donnent d'autres informations sur le rendement en fonction du réfléchissement de la lumière sur les plantes et les registres d'épandage et d'arrosage. L'encadrement de ces données préoccupe l'UPA. Les producteurs en restent propriétaires, mais leur analyse est souvent offerte à forfait par le fabricant, qui conserve l'accès à ces détails. D'énormes quantités de données se retrouvent ainsi entre les mains de quelques géants comme John Deere ou Monsanto, que certains appellent les GAFAM de l'agriculture. Charles-Félix Ross craint une perte d'autonomie des producteurs, puisque le fabricant ne fournit plus seulement des équipements, mais aussi l'ensemble du savoir-faire. Ces grosses entreprises en savent déjà plus sur l'état des cultures au Québec que les gouvernements locaux, soutient la professeure Annie Royer. Leur mainmise sur les données touche également les plus petites ag-tech, contraction d'agriculture et de technologie, ajoute-t-elle. Si elles ne sont pas accessibles pour une start-up, comment faire pour assurer une saine concurrence? Avec 35 % des ag-tech du pays, le Québec espère tirer parti de ce nouveau marché. La zone ag-tech créée en 2020 par la MRC de l'Assomption en compte à elle seule une quarantaine. Les grands équipementiers seront toutefois difficiles à déloger, convient Marie-Lou Cyr, directrice générale de la zone ag-tech qui a cofondé le REIA. Il faut des niches si tu ne travailles pas directement avec eux comme partenaire. Charles-Félix Ross, de l'UPA, fait remarquer qu'aucune loi, norme ou charte n'existe au Québec ou au Canada sur la propriété, la confidentialité et la sécurité des données du secteur agricole. Il faut réfléchir à la façon de déployer ces technologies. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, se dit interpellé par la question, mais n'a pas de solution à proposer à court terme. On est encore à un stade où il y a beaucoup de fédérations, de collaborations et de coordinations à cultiver sur le terrain pour en arriver à des réponses sur ces enjeux-là, affirme-t-il. En Europe, des codes de bonne conduite et des plateformes de partage comme Happy Agro, en France, ont été mis en place. Ces dernières facilitent la libre circulation des données tout en assurant la confidentialité des producteurs. Au Québec, la zone AgTech souhaite concevoir une plateforme du même genre. Dans son rapport publié en 2020, Annie Royer témoignait déjà de l'urgence d'adopter les technologies et d'encadrer leurs données pour que le Québec reste concurrentiel. Si on ne s'organise pas, on va se faire organiser, dit-elle aujourd'hui en évoquant les situations observées avec les géants du Web comme Meta et Google. C'était « Des robots en agriculture », un texte de Benjamin Richer paru dans le magazine L'Actualité de mai 2024.
La participation des Autochtones à la Première Guerre mondiale, respect et égalité. Un texte de Camille Langlade, paru le 11 novembre 2022 dans l'Express.ca de Toronto. Lors de la Première Guerre mondiale, des milliers d'Autochtones ont servi dans les forces armées canadiennes. John Moses, membre des bandes Delaware et Upper Mohawk, des Six Nations du territoire de la rivière Grant en Ontario, revient sur ce pan de l'histoire toujours vivant dans la mémoire collective et intrinsèquement lié au respect des droits autochtones. Quel rôle ont joué les populations autochtones pendant la Première Guerre mondiale? Les Autochtones se sont enrôlés dans les trois éléments des forces armées canadiennes pour servir durant la Première Guerre mondiale. La plupart étaient dans l'infanterie, mais certains se sont également engagés dans la marine royale et l'aviation royale. Selon les données existantes, plus de 4000 Autochtones ayant le statut d'Indien inscrit ont intégré les forces canadiennes pendant la Première Guerre mondiale. Ce chiffre ne représente que les Autochtones qui vivaient et travaillaient dans une réserve. Il y en a eu probablement autant hors réserve qui se sont engagés, ce qui ramènerait le nombre total de volontaires autochtones à environ 8000. Est-ce que le retour au pays après la guerre a été difficile? Ils ont souffert des mêmes complications que les autres soldats, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui le choc post-traumatique, qui s'appelait alors le shell shock, obusite. Mais ils se sont aussi retrouvés dans un environnement politique différent, parce que, pendant leur temps sous l'uniforme, ils ont été considérés comme des égaux. Mais lors de leur retour dans la société canadienne civile d'après-guerre, ils ont malheureusement été confrontés aux mêmes inégalités qu'ils avaient laissées en s'enrôlant. Que restait-il aujourd'hui de cette période, notamment chez les plus jeunes générations? Je pense qu'aujourd'hui, si on parle avec des jeunes autochtones de la participation de leurs ancêtres à la Première Guerre mondiale, il y a plus de 100 ans maintenant, on parle de leurs arrière-grands-parents et peut-être même de leurs arrière-arrière-grands-parents. Donc, les souvenirs de première main appartiennent maintenant au passé. Mais j'ai constaté que les jeunes sont toujours conscients du fait que les Autochtones ont participé aux efforts militaires du Canada pendant les deux guerres mondiales, mais aussi lors de conflits plus récents comme la guerre de Corée dans les années 1950. Je pense que les traités autochtones peuvent être caractérisés comme un engagement de partenariat commercial et économique en temps de paix et d'alliance militaire en temps de guerre. Les peuples autochtones ont servi d'alliés à la couronne britannique, mais n'étaient pas des sujets de la couronne britannique, et c'est un point très important à souligner. Peu importe qu'on parle des Autochtones de l'Est, de l'Ouest ou du centre du pays, on s'entend pour dire que les Autochtones, en temps de guerre, y compris au moment des deux guerres mondiales, étaient prêts à soutenir la continuité du gouvernement de la couronne à condition que cette même couronne accepte de reconnaître les droits autochtones et les droits issus des traités en retour. Il s'agit donc d'un partenariat égal entre deux alliés et non d'une relation de soumission entre une grande puissance et une petite puissance. C'est censé être un véritable partenariat. Ils ont servi en tant qu'égaux. C'est donc une partie de l'histoire qui reste malgré tout ancrée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, le souvenir de la Première Guerre mondiale est gravé dans toutes les mémoires. Il n'y a plus de survivants. Je suis sûr que chaque jour, on perd des survivants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Donc, dans ce sens, ce souvenir s'estompe dans la mémoire collective pour tout le monde. Mais en même temps, on peut espérer que les familles le conserveront dans leur histoire orale. Cela fait partie de leur mémoire ancestrale. Ma propre grand-mère a servi comme infirmière dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. J'étais moi-même un adulte quand elle est décédée. Elle était certainement un modèle pour un grand nombre de personnes de ma communauté qui ont finalement fait carrière dans les soins infirmiers. C'était « La participation des Autochtones à la Première Guerre mondiale, respect et égalité », un texte de Camille Langlade, paru le 11 novembre 2022 dans l'Express.ca de Toronto.
L'accès à l'eau, source de conflit. Un texte d'Annie Labrec, paru le 22 mars 2024 dans Québec Science. La situation est préoccupante. Selon le dernier rapport annuel des Nations unies sur l'eau, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et le nombre de conflits liés à cette ressource augmente. D'après le tout dernier rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau, près de la moitié de la population mondiale a connu de sévères pénuries d'eau en 2022 et un quart a fait face à un stress hydrique extrême, survenant lorsque plus de 80 % de la quantité totale des ressources renouvelables en eau douce sont utilisées. Les pénuries d'eau engendrent des conditions de vie précaires, conduisent à des migrations forcées et des conflits. Les femmes et les filles en sont souvent les premières victimes, elles qui portent le poids des responsabilités domestiques et de l'approvisionnement en eau. Nous en avons discuté avec Peter Glick, scientifique américain spécialisé en environnement. Il travaille au Pacific Institute en Californie et est auteur du livre « The Three Ages of Water » Public Affairs, Hachette, 2023, dans lequel il aborde l'histoire de notre relation avec cette précieuse ressource. Québec Science. Vous avez recensé plus de 1630 conflits liés à l'eau à travers le monde dans les 4000 dernières années, allant des bombardements de centrales hydroélectriques ou d'aqueducs aux rébellions citoyennes pour l'accès à cette ressource vitale. Quel est le bilan? Peter Glick. Le nombre de conflits violents liés aux ressources en eau a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Dans la chronologie des conflits liés à l'eau du Pacific Institute, nous suivons trois catégories de violences. L'eau en tant que déclencheur de conflits, l'eau ou les systèmes hydriques en tant qu'armes utilisées dans les conflits, empoisonnement des sources d'eau ou inondation de territoires ennemis, par exemple, et l'eau ou les systèmes hydriques en tant que victime d'un conflit. Malheureusement, nous avons constaté des augmentations dans toutes ces catégories. QS. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a donné lieu à des attaques contre les infrastructures d'eau. Pourquoi sont-elles visées? PG. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les infrastructures hydrauliques ont été largement et régulièrement attaquées, en particulier les barrages qui fournissent de l'énergie ou de l'eau, et les systèmes de traitement et d'acheminement des eaux urbaines, y compris les stations d'épuration et les pipelines. L'attaque la plus spectaculaire a été la destruction du barrage de Kakhova sur la rivière Dnipro, l'un des plus grands barrages et réservoirs d'Europe, en juin 2023, vraisemblablement par les Russes qui contrôlaient le barrage. Je ne peux pas spéculer sur les motifs, mais les attaques contre les infrastructures civiles, y compris explicitement les systèmes d'approvisionnement en eau, sont interdites par les lois humanitaires internationales, dont les protocoles de 1977 additionnels aux conventions de Genève. QS. Quelle région du monde est la plus touchée par ce type de conflit? PG. La violence liée à l'eau n'épargne aucune région, mais les régions les plus touchées sont celles où l'eau est rare, mal gérée, fortement contestée, ou dans lesquelles les institutions chargées de la gestion de l'eau et de la diplomatie de l'eau sont faibles. Historiquement, la violence liée à l'eau s'est toujours produite au Moyen-Orient, mais nous constatons aujourd'hui une augmentation de la violence dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie du Sud. QS. Pourquoi croyez-vous que cette recension des conflits liés à l'eau est nécessaire? PG. La mission du Pacific Institute est de comprendre la nature des crises de l'eau et de développer des stratégies pour les aborder et les résoudre. Les conflits liés à l'eau sont l'une des manifestations des défis mondiaux liés à l'eau, et nous explorons depuis longtemps les liens entre les questions environnementales et la paix et la sécurité. Il y a plusieurs années, il est apparu qu'il serait utile de disposer d'une base de données répertoriant les violences liées à l'eau afin de comprendre les causes de ces violences et d'identifier les moyens de les réduire. QS. Selon vous, existe-t-il un pays qui gère convenablement ses ressources en eau et qui serait un bon exemple à suivre pour les autres nations? PG. Il existe de nombreuses stratégies pour évoluer vers un avenir plus durable pour l'eau. Je décris la longue histoire qui lie les humains à l'eau dans mon livre « The Three Ages of Water » et je détaille des exemples de changements récents innovants, efficaces et positifs, notamment aux États-Unis, à Singapour, en Israël, dans certaines régions d'Afrique et ailleurs. Je pense qu'aucun pays n'est encore totalement engagé sur la voie de la durabilité de l'eau. Mais les éléments de cet avenir positif existent et doivent être mis en lumière, décrits, financés et transposés à plus grande échelle. C'était l'accès à l'eau, source de conflit. Un texte d'Annie Labrecque, paru le 22 mars 2024 dans Québec Science.